10h34 minutes dans le Point de Max à boulevard 102.1. Il y a des problèmes sur les routes encore. Là, Henri IV Nord, l'accès par le boulevard du Parc technologique, c'est partiellement entravé en raison d'une panne. Même l'accès au pont Pierre-Laporte, direction Nord, présentement, il y a encore de bons problèmes. Là, en arrivant par la 73, c'est un peu passé rue Beaulieu que ça commence à ralentir. Ailleurs, à Québec et sur la Rive-Sud, ça semble encore assez bien aller. S'il y a quoi que ce soit, 88-971-1021, c'est 13 degrés présentement à Québec. On attend 18 aujourd'hui avec de la pluie. Demain, il y a un 40% de possibilité d'averse, mais on pourrait avoir un peu de soleil aussi avec un 21. Mais après ça, c'est que des belles journées. Samedi, 19 degrés, gros soleil. Dimanche, 23 degrés, alternance soleil-nuage. Lundi, mardi, mercredi, c'est que du soleil également. Fait que pour se diriger vers le mois d'octobre, on va être assez gâtés. Je vous l'ai mentionné à quelques reprises depuis le début du show. Québec d'abord, le parti de Claude Villeneuve, demande aux dirigeants de la première Ligue canadienne de soccer de considérer Québec dans leur projet d'expansion. Pour en parler, on reçoit Véronique Dallaire. Elle est candidate de Québec d'abord dans les Saules, les Méandres. Madame Dallaire, ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Oui, merci beaucoup. Pourquoi faire cette demande-là à la Ligue, à la première Ligue canadienne de soccer? Là, il y a Montréal qui va avoir son équipe. On en veut une aussi à Québec, puis c'est pour ça qu'on sort aujourd'hui.
Oui, bien en fait, c'est pas la première fois qu'on amène cette idée-là sur la place publique, mm-hmm. dans la sphère publique. Je sais pas si vous étiez présent lors de la partie d'exhibition là, qui a eu lieu au Stade TELUS à la fin du printemps, où on a voulu, en fait, la Ligue, la première Ligue canadienne, voulait tester l'engouement de la Ville de Québec pour la venue d'une équipe professionnelle. À ce moment-là, Claude et moi avions eu des discussions avec les dirigeants de la première Ligue canadienne. Ils nous avaient confirmé l'intérêt d'implanter une concession à Québec.
Fait qu'il y avait déjà un intérêt.
Il y avait déjà un intérêt. C'était sous la pluie battante, puis l'audience qui s'est présentée atteignait quand même les objectifs. Donc, on s'est dit, OK, on a le feu vert. Donc, nous, comme opposition officielle, on voulait avoir la légitimité d'approcher des partenaires financiers, d'aller chercher l'ensemble des acteurs qui veulent une équipe professionnelle à Québec. Donc, j'avais proposé à ce moment-là la formation d'un comité transpartisan pour dire, écoutons, là, c'est pas un dossier de parti, là. C'est un dossier pour la communauté, pour la population de la Ville de Québec. Travaillons-le ensemble parce qu'on veut une concession. Et la réponse qu'on avait eue à ce moment-là de la part du maire Marchand, c'est de dire, je m'en occupe, j'ai pas besoin des autres.
Donc OK, fait que Bruno Marchand est en faveur aussi, mais il voulait faire ça tout seul.
Bruno Marchand a refusé la mise en place d'un comité transpartisan en disant « on s'en occupe, on va faire arriver ça ».
Ça sert à quoi, mettons, pour monsieur, madame, tout le monde qui écoute? C'est-tu vraiment utile, un comité transpartisan, ou bien le maire Marchand, ben lui, pour lui, c'est peut-être plus simple même de le faire tout seul, puis un comité transpartisan, c'est plus compliqué. Mettons qu'on essaie de comprendre un peu sa game, pourquoi il a voulu prendre ça sur lui.
Notre avis à nous, à Québec d'abord, c'est pour en conserver la paternité puis sortir en héros du dossier pour dire qu'il l'a fait arriver.
C'est mon équipe, c'est mon dossier.
Bien là, tu sais, tout le monde est en même de constater que... il a raté son coup parce que la concession qui a été annoncée hier est à Laval et pas à Québec. Donc, il n'est pas arrivé seul. Donc, Québec d'abord revient avec sa proposition. Nous, on veut mettre en place un comité transpartisan. Autant les partis que les acteurs. Je suis en communication avec tellement de dirigeants, de directeurs des clubs de soccer à Québec. Tout le monde la veut, l'équipe, puis personne ne se concerte pour le faire arriver.
Mais en même temps, tu sais, il n'y a personne à la ville puis dans les acteurs qui peut arriver à ça non plus si la Ligue voulait commencer par je dis Montréal, c'est Laval. T'sais, on peut bien tout vouloir le retour des Nordiques. Ça arrivera pas parce qu'on le veut. Est-ce qu'on a vraiment un pouvoir du côté du municipal pour faire arriver cette équipe-là?
Moi, je vous confirme que la Ligue veut une équipe à Québec. Ça nous a été dit, là. Nous étions encore jusqu'à tout récemment en communication avec la Ligue sur « on veut un club à Québec ». Et ils nous ont dit à Québec, ben un, il nous faut un stade. Donc, il faut un engagement en ce sens-là.
Ça pourrait pas être au Stade TELUS?
Ça peut l'être de façon temporaire. On pourrait avoir une concession qui arrive demain. La Ligue est prête à faire jouer le club au Stade TELUS pendant un certain temps, mais de façon... à long terme, ça ne fonctionnera
pas. Pourquoi?
Il nous faut un stade. C'est une exigence de la Ligue. C'est une
d'avoir
exigence
son
de la Ligue.
Stade à elle? Genre?
Ben, pas à elle. Ce qu'elle veut, c'est un stade qui appartient à la communauté. Ça fait vraiment okay. partie des valeurs de la Première Ligue canadienne, à savoir, on veut un stade où on va venir jouer, mais ou ça va aussi servir aux clubs locaux. On veut qu'ils appartiennent à la communauté.
Ça va coûter combien, ce stade-là?
Ben nous, on l'a estimé... Écoutez, attendez-moi.
Parce que vous l'avez proposé il y a quelques mois. C'était en mai que vous parliez de la construction d'un stade dans le secteur du Parc Victoria.
Oui. En fait, nous, on a parlé d'un projet qu'on nomme la Cité des sports.
Oui.
Donc, on veut un stade de soccer professionnel, mais pas que. Le stade, on l'a budgété à ce stade-ci à 70 millions de dollars. Mais je vais reprendre les propos de mon chef, Claude Villeneuve, qui le martèle. Il faut impliquer les autres paliers de gouvernement et le privé dans ce genre de projet-là. Okay. J'ai déjà entendu sur vos ondes William Trudel qui se faisait questionner à savoir on a évoqué que ça pourrait être un stade de soccer Trudel et lui de dire écoutez, je pourrais avoir l'intérêt, mais on m'en a pas parlé. Bien, ça, c'est un problème pour moi dans le dossier.
Il aurait fallu que Bruno Marchand déjà se soit adressé à un gars comme M. Trudel.
Bien, Trudel et autres, on est en retard dans le dossier. Puis si M. Marchand, ce qu'il veut faire, c'est de conserver le dossier pour lui, bien, tant mieux. Mais Québec d'abord, on ne veut pas le travailler comme ça.
Est-ce que Bruno Marchand a parlé d'un nouveau stade ou...
Il a parlé d'un nouveau stade. Ce qu'on a pu lire... On veut avoir accès à cette information-là aussi là, pour pouvoir mettre la main à la pâte. Ce qu'on a vu dans les articles, c'est qu'il y avait 5 sites potentiels qui étaient envisagés, mais il n'y a rien qui a été dévoilé. On n'est pas au courant des informations par rapport à ça.
Un questionnement qu'on avait ce matin avec Marceau puis avec Jeff, c'est le stationnement. Parce que là, déjà dans ce coin-là du Parc Victoria, il y a le stade Canac. Puis on a vu les problématiques qu'il y a eu avec les capitales dans les dernières semaines. Du monde qui n'en a pas de parking. Là, fait que tu essaies de t'arranger puis finalement, tu sors de là avec des tickets. On va faire comment pour amener un nouveau stade puis amener du monde dans ce coin-là encore plus avec cette problématique-là de stationnement?
Bien, nous, en fait, dans notre vision de la Cité des sports, c'est vraiment de revoir notre entrée de ville. Donc, on a le stade de soccer professionnel, mais on a aussi un stationnement étagé qu'on vient installer et qu'on a budgété.
Est-ce qu'il est compris dans le...
Il est pas... En fait, je peux vous partager le montage financier. Là. On évalue notre Cité des sports à 110 millions de dollars. On a un 70 millions pour le stade de soccer et on a évalué le stationnement étagé à 20 millions.
Okay.
On se base sur les chiffres du stationnement qui est actuellement en réfection à l'Aquarium de Québec. Donc, on a un stationnement étagé qui permet, oui, de prendre des voitures du débit pour les capitales. Il y a la patinoire couverte qui est récemment installée là, le stade de soccer. Mais en dehors des heures où il y a des matchs, il y a une problématique dans ce secteur-là pour les résidents lors des opérations de déneigement. Donc, on y voit aussi une solution pour les résidents qui habitent aux abords de cette cité des sports-là pour leur offrir une solution.
Y croyez-vous à l'arrivée d'une équipe de soccer à Québec à court terme ou avec la construction du stade, là, vous me dites que du côté du stade TELUS, il y aurait moyen de faire de façon temporaire. Dans vos plans, le vrai stade serait prêt quand? Puis à quel moment on serait vraiment prêt à accueillir une équipe sans devoir passer par le stade TELUS?
Bien, écoutez, il y a aussi la déconstruction, la décontamination de la centrale de police qui est actuellement là. C'est pas demain. Si je reviens à votre question, est-ce que j'y crois? Certainement. Je crois pas à la venue d'une équipe de soccer professionnel à Québec. Je crois à la venue de deux équipes de soccer professionnel à Québec. Une de la Première Ligue canadienne, parce que c'est de ce dont on parle ce matin, mais une de la Super Ligue du Nord. C'est la ligue dans laquelle évoluent les Roses de Montréal, qui ont annoncé encore récemment qu'ils étaient à la recherche d'investisseurs pour développer et implanter une nouvelle concession. Je crois que nous aurons une équipe professionnelle de soccer masculine et une équipe de soccer professionnelle féminine.
Est-ce qu'on a le bassin de population pour ça, pour deux équipes?
Assurément. Assurément. Le bassin masculin, il est présent. Féminin, je ne veux pas dire encore plus, mais il est là, il répond présent. Je coach pour le club de soccer Phoenix depuis maintenant 6 ans. Et la qualité de joueuses puis l'intérêt des joueuses qu'on a à Québec... elle est là et les jeunes filles que je compte, elles ont 10 ans. Donc, elles ne sont pas rendues au niveau professionnel. Mais ne serait-ce que d'évoquer la possibilité qu'elles puissent rêver de jouer professionnel dans leur ville, à leur sport. Écoute, c'est des étoiles dans leurs yeux, là. Donc, oui, j'y crois. Puis je pense qu'il faut le rêver pour Québec, même si ce n'est pas demain matin que ça arrive.
Est-ce que vous vous situez un peu à la même place pour ce qui est de la ligue professionnelle de hockey féminin? Est-ce que je sais que Jackie Smith, entre autres, là, du côté de Transition Québec, en parle beaucoup de ce dossier-là, puis voudrait une équipe à Québec. Est-ce que Québec d'abord se positionne un peu de la même façon?
On est au même endroit. C'est ma collègue, en fait, Anne Corriveau. qui est sortante et qui ne se représente plus, là, mais on va assurément le prendre là, comme legs, notamment de sa part. Mais elle l'a proposé, ça fait déjà belle lurette. On le souhaite aussi. On le souhaite aussi. Il y a une place à Québec pour le sport féminin. Et je pense que ces démarches-là peuvent se faire de façon concurrente. Là. Elles n'ont pas besoin d'être une après l'autre.
On demande par texto, en passant, n'hésitez jamais là, si y a quoi que ce soit au 418-971-1021 si vous avez des questions. Vincent qui demande, est-ce que vous êtes conscient que le coût de construction va probablement être deux fois plus élevé que ce qui a été prévu et budgété? Est-ce qu'on a planifié un peu qu'il y aurait des dépassements de coûts comme à peu près malheureusement dans tous les dossiers?
Bien là, écoutez, le montage financier qu'on a prévu, oui, est en date de ce jour, mais il y a des je cherche le mot. J'ai juste buffer, je cherche en français.
Oui, je comprends ce que
un
vous
coussin.
Voulez dire.
Un coussin.
On va comprendre avec coussin.
Voilà, un coussin, pardon pour l'anglicisme, parce qu'on le sait que la construction ne se fera pas demain. Donc, il y a une marge. Il y a une marge, mais évidemment, on n'est pas à l'abri là, de certains dépassements de coûts. Mais je le répète, c'est un projet dans lequel Québec d'abord veut impliquer le privé, mais non pas seulement. On veut aussi impliquer les autres paliers de gouvernement. Et on pense qu'au final, la ville devrait s'en sortir dans notre plan décennal d'investissement. Donc, sur 10 ans, avec un coût de 40 millions pour le projet global de la Cité des sports. Là. Donc, on parle du stade de soccer, on parle du stationnement, de la déconstruction et de la décontamination de la centrale de police, de la vieille centrale de police, et aussi de la réfection des terrains de tennis et de l'ajout de surface de pickleball dans cette cité des sports-là.
Parlons d'asphaltage, oui. Un sujet tellement sexy. Monsieur, madame, tout le monde écoute présentement puis se dit « Yes, on jase d'asphaltage ». Mais mine de rien, c'est une promesse importante qui a été lancée par le maire sortant, Bruno Marchand, hier, qui promet 400 km d'asphaltage sur 4 ans, dont 300 km en secteur périphérique. Du côté de Québec d'abord, on l'accuse d'opportunisme électoral. Mais reste qu'en bout de ligne, quand on regarde cette mesure-là objectivement, est-ce que c'est une bonne mesure?
Bien, en fait, j'ai envie de vous dire qu'il était temps qu'il arrive dans le game. Nous, en mars dernier, on a proposé, on a pris l'engagement de procéder à une opération massive d'asphaltage qui permettrait rapidement de procéder à la réfection de minimalement 25 % des artères de la ville de Québec. En mars dernier. Et au moment où on le fait, le maire, fidèle à ses habitudes, s'est moqué parce qu'il disait qu'il n'y avait pas de problématique sur nos routes. Puis que tout allait bien. Hein? C'est souvent son discours. Là, on arrive au moment de la campagne électorale. Il se positionne dans les banlieues pour lesquelles il n'a pas agi dans les 4 dernières années. Je suis obligée de vous dire que, oui, c'est un bel engagement. Parce qu'on l'a pris, ça fait déjà belle lurette. Mais lorsque c'est Marchand qui le prend, je suis obligée de dire que c'est crédibilité zéro.
C'est quoi les coûts de ce type d'engagement-là? Parce que pour ce qui est de Bruno Marchand, là, ce qu'on nous a dit, c'est qu'on allait présenter les coûts dans le cadre financier. On peut évaluer ça à comment? Puis votre mesure, la même chose?
Bien, en fait, ce matin, je n'ai pas les coûts détaillés parce que nous, non seulement on s'engage à cette opération massive d'asphaltage 2.0, mais on s'est aussi engagé à réduire de 25 % la durée des travaux sur les artères névralgiques parce qu'on le sait, ça augmente les problématiques de congestion. Dans les prochains jours, on fait plusieurs sorties là, sur nos différents engagements et dans les prochains jours, on fera celle sur la mobilité. Donc, vous serez à même là, de pouvoir avoir les chiffres, en fait, ces engagements-là chiffrés. Là.
Mais justement, les chiffres, là, le cadre financier, c'est tout le temps une question des citoyens. Pourquoi on attend autant avant de partager les chiffres puis le cadre financier? Il me semble que si tout le monde présentait ça au début de la campagne, ben là, on serait tous un peu plus fixés à savoir, OK, vers où on s'enligne. Pourquoi c'est long de même? Est-ce qu'on va l'avoir bientôt, votre cadre financier à Québec d'abord?
Bien, nous, en fait, il est monté, là. T'sais, nous, on l'a et ça fait déjà plusieurs sorties qu'on fait. On a choisi de le faire par thématique. Celle qu'on a faite à ce jour, notamment, je prends celle des centres communautaires, dont la réfection des centres communautaires sur le territoire de la Ville de Québec, on a chiffré ces engagements-là. On va aussi le faire lorsqu'on va sortir pour la mobilité, comme je viens de vous dire. Et si je ne m'abuse, on est le seul parti à avoir avancé autant de chiffres à ce jour. Donc, oui, c'est un choix de le faire par thématique. Vous conviendrez que ça peut devenir beaucoup aussi, là, si on garoche les chiffres pour l'ensemble de notre plateforme électorale. On le fait par thème, c'est un choix, puis on va continuer d'associer nos engagements aux chiffres qui leur sont liés.
88-971-1021, une question qui est entrée. Je veux bien l'asphaltage, mais allez-vous oublier ce qu'il y a en dessous de l'asphaltage, tuyauterie, les fils, tout ça, parce qu'asphalter sans remettre le système souterrain, ben c'est brûler de l'argent, puis on est en maudit, on est tanné en maudit du brûlage d'argent.
Oui, bien, en fait, merci pour la question. J'ai pas le nom du citoyen ou de la citoyenne. Merci, Kim, pour la question. Ça, c'est une problématique qu'on a déplorée, notamment parce qu'il arrive un manque de coordination entre les différentes équipes ou même entre un promoteur privé et la ville, où malheureusement, on l'a vu trop souvent dans les 4 dernières années, on fait l'asphaltage sur une artère, puis pas longtemps après, il faut la péter, pardonnez-moi l'expression encore une fois, pour aller refaire en dessous parce qu'il y a une problématique qu'on n'avait pas anticipée. Ça fait aussi partie des engagements qu'on a pris, là, on a commencé à en prendre avant que la campagne électorale soit lancée, sur une meilleure coordination des travaux. Parce que c'est inadmissible qu'on asphalte sans coordonner puis valider s'il y a des choses à refaire en dessous, parce que là, c'est payé en double. Et Kim a raison, c'est les citoyens qui payent en double.
Comment on s'explique que ça arrive? Tu sais, je me souviens, c'est dans Le Soleil, il y a quelques semaines, qu'on nous parlait d'un exemple précis où je pense que c'était un trottoir qui avait été refait 3-4 fois en quelques mois. Comment on peut s'expliquer que ça arrive?
Je me l'explique mal.
Là, on dit parce que là, il y avait eu un retard pour un projet privé. Fait que là, si c'était pas de ce retard-là, ça aurait eu plus de bon sens. Mais même en enlevant cet élément-là, il reste que ça aurait été 3-4 fois en un petit peu plus de mois. Là, mais
on parle des sommes puis des fonds qui sont liés à des problématiques comme ça. Puis je vous le donne, là, il y a vraiment un aspect financier qui est important. Là, on prend un trottoir, mais si on le transpose sur une route pour laquelle on est obligé de la défaire puis la refaire, on a un problème de congestion à Québec. Donc, les impacts sont financiers, oui, mais il y a aussi un impact sur la congestion puis sur la qualité de vie des citoyens parce qu'ils sont pris dans le trafic. Dans notre plan pour réduire les travaux de 25 % en termes de durée, bien, un des éléments principaux, c'est la coordination, la communication entre les différents acteurs qui doivent se parler. C'est ça qui s'est passé. Il y a 2 personnes, 3 personnes qui ne se sont pas parlé dans le dossier, puis ça fait en sorte qu'on est pris pour refaire un trottoir 3 fois. Ça ne devrait pas arriver dans n'importe où, mais d'autant plus dans une ville comme Québec.
En terminant, je suis curieux de vous entendre, Véronique Dallaire, sur la rencontre d'hier soir du côté de Leadership Québec. C'est Nouveau qui nous a rapporté l'information à l'effet que, là, on s'était comme rendu compte chez Leadership Québec que ça marchait pas comme début de campagne. Puis on voulait faire, on appelait ça un recadrage. Qu'est-ce que ça dit sur le parti de Sam Ahmad?
Je pense qu'il était temps qu'ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas, là. C'était peut-être les seuls, en date du 24 septembre, qui ne s'étaient pas rendus compte que ça ne fonctionnait pas, du tout. À suivre là, pour le recadrage. Nous, chez Québec d'abord, ça va très bien.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Avez-vous hâte de voir des sondages, des chiffres? Parce que là, les derniers qu'on avait, c'était au mois de juin, si ma mémoire est bonne. Puis ça allait pas super bien. Claude Villeneuve, qui était même derrière Jackie Smith, est-ce qu'on a l'impression qu'au prochain sondage, ça va aller mieux?
Les sondages, c'est toujours relatif, là. Moi, je pense qu'au prochain, ça va aller mieux, mais je pense que l'autre d'après, ça va être encore mieux. La réponse sur le terrain, elle est excellente. On est tous sur le terrain, sur les appels en porte-à-porte. Puis moi, je suis obligée de vous dire que la principale réponse que je me fais offrir quand je cogne une porte, c'est « Êtes-vous pour Marchand? » Puis là, je dis non. Il dit « Ah, OK, je vous écoute. » Donc, il y a vraiment un ras-le-bol du maire actuel. Et la ligne qui suit ensuite, c'est « Ah, mais là, M. Ahmad, on n'est pas sûr. » Je dis « Non, je suis pour ni un ni l'autre. Je suis pour Claude Villeneuve, la seule vraie alternative pour la mairie. » Au 2 novembre 2025.
Mais reste qu'avec le projet de tramway, ceux qui sont pour M. Ahmad, c'est plus vers Stéphane Lachance qui risque d'aller s'ils sont... Quand on regarde les chiffres, mathématiquement, il y en a beaucoup qui pensent que Bruno Marchand se dirige vers une réélection assez facile parce qu'on voit qu'un 38%, ça c'est Le Soleil qui le disait la semaine passée, 38% qui veulent un retour de Bruno Marchand à mairie. Ça, ce que ça veut dire, mettons qu'on y va avec la grosse logique, c'est que 38% vont voter pour Bruno Marchand. Claude Villeneuve qui part en bas de 10 % va être tough, là.
Nous, on y croit. Plus on se fait connaître sur le terrain, plus les gens vont voter pour Claude. Et je vous dirais qu'aux portes, là, on ne me parle pas du tramway. On ne me parle pas du troisième lien. Les gens sont tannés. Ils ont envie qu'on se ramène à leurs préoccupations quotidiennes. Puis c'est notre engagement d'être proche des citoyens. Et ça, ça leur parle.
Véronique Dallaire, candidate de Québec d'abord dans les Saules, les Méandres. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Au retour, Audrey Pinchot s'en vient pour l'Open Mic.